Ce matin, ensemble, on va revenir sur un aspect de la foi chrétienne qui est vraiment essentiel, qui est incontournable, qui est vraiment très important de comprendre. C'est un sujet sur lequel vous avez déjà entendu des dizaines et des dizaines de prédications. Et le défi que je vais avoir ce matin, que je vais tenter de relever, c'est de pouvoir vous prêcher à nouveau sur ce thème, sur ce sujet. C'est celui de la grâce. La grâce. Alors, pour ceux qui sont dans cette assemblée depuis des années ou qui se sont convertis il y a des années, qui ont fréquenté d'autres églises, forcément, la grâce, c'est un thème, c'est un sujet qui vous semble familier, qui vous semble connu, qui vous semble peut-être même rabâché. Mais c'est tellement, tellement facile de n'avoir qu'une compréhension et une intelligence, je dirais, intellectuelle, une compréhension intellectuelle de ce thème-là, de ce sujet-là. Et ce que j'aimerais vraiment que nous puissions avoir ensemble ce matin, c'est que nous puissions avoir une compréhension spirituelle, approfondir notre compréhension et peut-être là avoir une nouvelle occasion ensemble ce matin de pouvoir saisir pleinement la signification de la grâce. Je pense qu'ici, dans ces murs, le message de la grâce a retenti des dizaines, peut-être même des centaines de fois. On a avec nous un des meilleurs prédicateurs de la grâce. J'ai entendu Daniel prêcher, mais combien de fois sur la grâce, il l'a pris par la gauche, par la droite, en haut, en bas, dans tous les sens, en fait, la grâce, il l'a abordée dans tous les sens. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui a été déposé dans mon cœur. Et je crois que la grâce, on a besoin d'en entendre parler régulièrement, continuellement. Je sais que Noël aussi a abordé ce sujet-là avec ceux qui s'engagent dans l'intercession en début d'année. Et on va y revenir. On va là voir là, toute la portée qu'a la grâce dans notre vie. Jésus, qui est venu révéler Dieu tel qu'il était, dans son amour, dans sa perfection, dans sa justice, a placé son action sous le signe de la grâce. C'est étonnant de voir que dans les évangiles qui nous relatent l'action de Jésus, qui nous relatent l'enseignement de Jésus, il est assez peu question de la grâce. Du moins, la grâce n'est que très rarement citée en tant que telle. Parce que, en fait, Jésus, ça va être la grâce en action. C'est lui qui va être l'incarnation de la grâce, qui va être porteur de ce message de grâce. Et lorsqu'il a commencé son ministère, qu'il a pris la parole dans la synagogue de Nazareth, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe et il a lu ce texte que l'on trouve dans le chapitre 4, au verset 18 et 19. Il lit les paroles du prophète Ésaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus commence son ministère, il commence à annoncer le salut, il commence à annoncer la venue du royaume de Dieu et il le dit, il inaugure ce ministère en disant qu'il vient publier une année de grâce du Seigneur. Ce qui signifie que tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va accomplir, la série des miracles là qui sont énumérés dans cette lecture du prophète Ésaïe, tout ça va être fait par grâce. C'est la grâce de Dieu qui, au travers des paroles et au travers de l'action de Jésus, va être manifestée. Il annonce son programme et il dit « Moi, mon programme, ça va être la grâce de Dieu. » Jésus inaugure une nouvelle ère dans l'histoire des relations entre Dieu et les hommes. Dans les pays christianisés, on a pris l'habitude de compter les années depuis la venue de Jésus. Nous sommes en 2015, après Jésus-Christ. On compte en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est comme si là, le temps était séparé avant la venue de Jésus-Christ et après la venue de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le temps, quand on écrivait une lettre et qu'on voulait mettre la date sur la lettre, on employait l'expression « an de grâce » pour désigner l'année dans laquelle on se trouvait. Je sais pas moi, le 28 mars, par exemple, de l'an de grâce 1670. Alors, c'est un peu tombé en désuétude. Maintenant, sur les courriers qu'on envoie, on n'utilise plus trop ces expressions-là. Mais on pourrait dire aujourd'hui, parce qu'on compte en avant et après Jésus-Christ, on pourrait dire aujourd'hui, on est le 24 mai de l'an de grâce 2015. Parce que la venue de Jésus, l'action de Jésus, a marqué le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle période dans l'histoire des relations entre Dieu et les hommes. Cette division du temps présente la venue de Jésus comme un moment charnière dans l'histoire du monde. Mais ce qui est plus important encore, c'est que la venue de Jésus soit un moment charnière dans notre histoire personnelle aussi, dans notre histoire individuelle. C'est plus important encore que nous comprenions le mieux possible la grâce de Dieu pour pleinement bénéficier de cette grâce. Parce que le message de la grâce, c'est un message qui n'est pas normal. C'est un message qui est illogique. C'est un message qui est absolument révolutionnaire. C'est un message qui prend à contre-pied la logique de la religion. C'est tellement énorme qu'on se dit, la grâce de Dieu, mais c'est pas possible. C'est impossible, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas être à ce point-là. Dieu ne peut pas nous aimer au point de nous faire grâce de cette manière. Si bien qu'on a tendance à réduire la portée du message de la grâce. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile de réduire la grâce. Et ce n'est pas sans conséquence sur notre manière de vivre notre vie chrétienne, de vivre notre relation avec Dieu, de vivre notre service et notre engagement pour Dieu. Alors que le Seigneur vraiment nous aide, qu'il soit présent par son esprit surtout, parce que c'est clair, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, ce n'est pas moi qui vais là arriver à vous exposer toutes les merveilles et toutes les dimensions de la grâce. C'est vraiment Dieu qui doit nous parler, c'est vraiment Dieu qui doit nous renouveler dans cette compréhension. Alors on va juste faire un récapitulatif de comment s'articule la grâce et le salut. Quelle définition on pourrait tout d'abord avoir de la grâce ? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, si vous venez là pour la première fois ou si vous êtes en cheminement et que vous venez de plus en plus souvent dans l'Église, vous avez sans doute entendu ce mot dans les chants, dans les prédications, mais quelle est la définition vraiment qu'on peut avoir de la grâce ? Il faut là qu'on ait une définition biblique de ce mot-là. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot qui est employé quand il est question de la grâce, c'est le mot « charis ». Et si on voulait donner une définition du mot « charis », ce serait la suivante. Ce serait « faire acte de bienveillance ou de faveur envers quelqu'un dans le but de lui être agréable ». Et l'équivalent du mot « charis » dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, c'est le mot « chen ». Et la signification de ce mot, c'est « faire preuve de compassion envers quelqu'un qui n'a aucun droit à faire valoir ». En résumé, faire grâce, c'est donner quelque chose à quelqu'un qu'il ne mérite pas. L'idée qu'il y a dans la grâce, c'est que ce qui est donné n'est déterminé que par la décision de celui qui donne. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'acte de réciprocité, il n'y a rien qui va influencer la décision de la personne qui va donner. Faire grâce, c'est un acte gratuit. C'est vraiment synonyme de gratuité. Dans la Constitution française, il y a le droit de grâce qui est prévu. L'article 17 de la Constitution française prévoit le droit de grâce présidentielle. C'est ce qu'on appelle un droit régalien, en termes techniques, en termes juridiques, parce qu'il n'y a que le président de la République qui peut exercer ce droit de grâce. Lui, le président, c'est le plus haut détenteur du pouvoir. Et la décision qu'il va prendre de faire grâce à quelqu'un qui a été condamné par la justice ne revient qu'à lui. C'est lui qui va prendre cette décision. Alors, il peut être conseillé, bien entendu, mais à un moment donné, c'est lui qui, souverainement, va prendre la décision de faire grâce et de faire en sorte que la condamnation qui doit tomber sur une personne qui a été condamnée par la justice n'ait pas lieu. Cette décision n'appartient qu'à lui. Et c'est une décision très importante parce que par le passé, elle a permis à des hommes d'échapper à la prison, elle a permis à des hommes d'échapper à des condamnations très lourdes, et même au temps de la peine de mort, il y a même des gens qui étaient condamnés à mort qui ont été graciés. Ils devaient être exécutés, et parce que le président de la République a décidé de faire grâce, ils vont vivre, ils vont échapper à la condamnation. Le principe de la grâce est très très important à saisir, à repasser dans nos cœurs, parce que c'est en vertu de ce principe que l'on est sauvé. C'est en vertu du principe de la grâce qu'on peut avoir l'espérance de la vie éternelle. Qu'à un moment donné, on peut se dire, je suis sauvé, je vais aller au paradis, et mon éternité, je vais la passer avec Dieu. Le salut est immérité. C'est une faveur que Dieu nous fait par compassion, c'est une faveur qu'il nous fait pour nous être agréable. Il n'y a rien de notre côté qui puisse provoquer le salut. Vous voyez pourquoi la grâce est révolutionnaire ? Parce que dans toutes les religions du monde, on vous dit, il faut que tu fasses pour être sauvé. Il faut que tu fasses des bonnes œuvres, il faut que tu accomplisses des rites, il faut que tu te soumettes à un dogme, à une morale, et en fonction de ce que tu auras pu donner, je verrai, je déciderai, c'est Dieu qui pense, je verrai, je déciderai, et je verrai si je te donne le salut ou pas. Dieu nous dit au travers de la Bible, c'est moi qui décide souverainement de ton salut. Comment est-ce qu'on peut s'apercevoir qu'il n'y a rien de notre côté qui peut provoquer et qui peut déterminer notre salut, qui peut déterminer la décision de Dieu de nous sauver? En constatant, on peut s'en apercevoir en constatant que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Nous sommes incapables de faire le bien que Dieu demande. Nous sommes dans l'incapacité d'accomplir totalement et parfaitement sa volonté. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a des exigences. Dieu nous demande d'accomplir sa volonté. Mais le problème, c'est que quand je suis face à ce que me demande Dieu, je m'aperçois très rapidement que j'y arrive pas. J'y arrive pas tout le temps. J'y arrive partiellement. Des moments, j'y arrive et il y a d'autres moments, j'y arrive pas. Et on est incapable de répondre à la totalité de ce que Dieu demande. Dieu est parfait. Sa volonté qui est contenue dans la parole est parfaite. Et si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être acceptés par Dieu, nous devrions accomplir parfaitement et totalement sa volonté. La moindre des choses qui est dans la parole, la moindre des choses qui est dans les pages de la Bible, nous devrions les accomplir pour que Dieu nous accepte. Il a fait connaître sa volonté dans la Bible, et je dois faire tout ce qui est écrit dans la Bible pour être juste, pour être accepté par lui. Dieu a fait connaître sa volonté en particulier dans la loi, la première partie de l'Ancien Testament, toutes ces règles rituelles et ces règles morales qui sont consignées là dans les Écritures. Il faudrait que j'applique tous les commandements, tout ce que je trouve dans Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique, tout ça, il faudrait que je le fasse. Et ça, c'est ce qui me permettrait d'être sauvé et d'être accepté par Dieu. Si je ne respecte pas la volonté de Dieu, je reste imparfait. Si je suis imparfait, je ne peux pas être en communion avec celui qui est parfait. Donc si je ne fais pas la volonté de Dieu, je suis condamné. Si le code n'est pas respecté, si la règle n'est pas respectée, je dois en répondre. La justice doit s'appliquer. Et il n'y a pas moyen de s'arranger avec ça. On pourrait se dire, bon, c'est vrai, j'ai fait une mauvaise action, mais j'ai fait deux bonnes actions. Donc hop, on essaye de rééquilibrer comme ça. Mais non, à partir du moment où tu as fait une mauvaise action, le rééquilibrage, il n'est pas possible. Vous avez peut-être des causes qui vous tiennent à cœur et auxquelles vous donnez régulièrement, vous faites preuve de générosité. Moi, il y en a une qui me tient en particulier à cœur, c'est la sécurité routière. Je donne régulièrement à cette cause, mais involontairement. Je crois que vous avez tout de suite compris. Il y a quelques années en arrière, j'étais parti en vacances au mois d'avril. On avait pris une semaine de vacances et Sandrine avait trouvé une location dans l'Aveyron. Je ne sais pas si vous connaissez l'Aveyron, moi je n'avais jamais mis les pieds là-bas. C'est une région vraiment magnifique. Donc on est parti le samedi, vous savez les locations ça marche comme ça, ça va du samedi au samedi. Et puis donc j'étais sur la route, on a pris les nationales. On n'avait pas pris l'autoroute parce qu'on s'est dit on va payer moins cher. Ça va coûter moins cher de prendre la nationale, on n'aura pas à payer le péage à l'autoroute. Et donc j'étais en train de conduire... 90, hein, très, très sérieux, très rigoureux. Et puis, au bout d'un moment, là, j'arrive et poum, flashé. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais arrivé sur un tronçon où il fallait ralentir à 70. Et je n'avais pas vu le panneau. Et bam, flashé, 45 euros. Ah, et quand on part en vacances, 45 euros, on se dit mince, hein, on aurait bien les mettre autre part que pour l'État, bien sûr. Enfin bon, les vacances se déroulent, on pose nos valises, on visite, on se promène dans l'Aveyron. Il a plu pratiquement tout le temps. C'était des vacances bénies, hein, sérieux, c'était vraiment très bon. La semaine se passe, on a quand même bien profité. Et puis, je reprends la voiture. Et puis, on fait la route en sens inverse. Alors, autant vous dire que hein, je fais bien attention. Là, je regarde là, le compteur. Je fais attention à rester à 90. Poum ! Flashé une deuxième fois. En 7 jours d'intervalle, 45 euros, 90 euros. Même chose, il fallait ralentir à 70 et j'avais continué à 90. Et vous savez, à ce moment-là, je ne sais pas comment vous, ça fonctionne chez vous, parce que je ne pense pas que je sois tout à fait le seul dans cette situation, mais on sait qu'il y a un délai de 10 jours avant que le PV vienne tomber dans la boîte aux lettres. Et là, il y a un espoir fou qui s'est saisi de mon cœur et je me suis dit, mais peut-être que je ne vais pas recevoir le PV dans ma boîte aux lettres. Alors, tous les jours, là, j'allais chercher le courrier et je me précipitais sur la boîte aux lettres. J'étais toujours le premier à prendre le courrier. Et puis, il y a 4 jours, 5 jours, là, qui passent. Et 10 jours après, bam, le PV. 10 jours après le premier flash, le PV dans la boîte aux lettres. Donc, 45 euros. Mais moi, je suis un gars qui espère toujours. Alors, je me dis, bon, peut-être que la deuxième, je vais pas l'avoir dans ma boîte aux lettres. Mais 10 jours après, exactement, Le deuxième PV était dans ma boîte aux lettres. Alors, je comprends bien que la limitation de vitesse, elle soit nécessaire. Elle est bonne, parce que sinon, la route, elle serait dangereuse. Elle serait dangereuse pour moi, elle serait dangereuse pour vous. Si on faisait les uns et les autres tout ce qu'on voulait sur la route, ce serait vraiment très dangereux. Mais sincèrement, quand j'étais au volant de ma voiture, quand j'étais sur la route de mes vacances, je voulais respecter le code. Je n'avais pas dans l'idée de faire le malin et de dire bah, « ce 70, mais je continue à 90 ». J'étais pas du tout animé par ce genre de volonté. Au moment où j'ai commis cette infraction, j'ai mis personne en danger, parce que la route était dégagée, et j'ai pas mis en danger quiconque qui était autour de moi. Le problème, parce que là, je pouvais me trouver vraiment de bonnes raisons pour dire, mais non, c'est pas juste, je devrais pas payer quand même. Mais le problème, c'est pas mon intention. Le problème, c'est pas mon désir de faire le bien, parce que je l'avais, ce désir-là. Mais le problème, c'est tout simplement que l'infraction, elle a été commise. Et que, selon la loi, je dois être condamné. Il faut que la justice s'accomplisse. Et la justice, elle est la même pour tout le monde. La loi, elle est la même pour tout le monde. Donc, je suis condamné. Même si je veux faire le bien, à un moment donné, je suis condamné. Même si la loi te montre et te révèle ce qui est bien, la loi t'indique continuellement, en réalité, que tu fais mal. Elle te prend en défaut. Elle te met face à tes incapacités, à tes faiblesses. Et t'as beau argumenter, t'as beau trouver des excuses valables, justice doit être faite. Et chaque fois que tu ne fais pas la volonté de Dieu, poum, t'es flashé. Et tu dois payer. La loi t'interdit de voler. La loi t'interdit de mentir. La loi t'interdit de critiquer. La loi t'interdit même de convoiter. Ça veut dire que la loi, elle t'interdit de penser le mal. Il faut que tu sois parfait dans tes pensées. Si je mens, même, vous savez, les petits mensonges qui ne portent pas à conséquence, mais qui nous permettent juste de nous tirer d'embarras facilement, poum, flashé. Si je suis envieux, si je regarde autour de moi, puis je dis, mais pourquoi est-ce que lui ou elle, il a ce métier-là? Pourquoi est-ce que moi, je dois galérer et puis que lui, il a ce métier-là? Pourquoi est-ce que lui ou elle, il est marié ou elle est mariée, et puis moi, je suis pas marié, je suis pas encore marié? Vous voyez, toute l'envie qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce que lui, il a une famille comme ça, et puis moi, j'ai une famille comme ça? Poum, flashé, à chaque fois, flashé. Si je manque de respect à l'égard de mes parents, si je pense le mal, poum, flashé. À chaque fois, je suis flashé. La loi, elle me flashe. Elle me condamne. Alors évidemment, comme Dieu savait que personne ne pourrait accomplir la loi, il avait prévu dans l'Ancien Testament des sacrifices pour qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés. Tout ça, c'est codifié dans la loi. Il y avait des sacrifices pour les péchés volontaires, même pour les péchés involontaires. Donc Dieu, il voyait bien la difficulté que les hommes avaient à accomplir sa volonté. Sauf que ces péchés-là, c'est vrai que la condamnation, au lieu de tomber sur la personne, elle tombe sur l'animal qui va être offert en sacrifice, au tabernacle ou au temple. Donc c'est le principe de la substitution. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas parfait, comme on est toujours susceptible de commettre des erreurs, de péchés, eh ben, il faut toujours offrir des sacrifices. J'offre un sacrifice, mais si je recommence à pécher, si je recommence à penser mal, quelque temps après, il va falloir que j'offre à nouveau un sacrifice. Et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Il fallait à chaque fois offrir un nouveau sacrifice pour qu'on puisse échapper à la condamnation. Le seul moyen efficace qui nous permette d'échapper à la condamnation, c'est qu'à un moment donné, ce soit Dieu, lui, qui décide souverainement de nous donner le salut. Il faut qu'il décide. Il faut qu'il nous donne le salut. Il faut qu'à un moment donné, il manifeste sa grâce. Il faut que la condamnation de la loi tombe sur quelqu'un d'autre et qu'un sacrifice parfait soit accompli pour que nous soyons définitivement libérés du jugement et de la condamnation. Et ça, c'est ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Sa mort, c'est un sacrifice parfait parce que lui, il a été parfait. Lui, il a à chaque moment accompli la volonté de Dieu. Sans faillir, il a commis aucune erreur, aucune faute. Jamais le mal n'a pénétré son esprit. Il était parfait, alors lorsqu'il a accepté de mourir à la croix, il a offert un sacrifice parfait et définitif. Alors c'est vrai, la loi, elle nous condamne toujours, elle nous flash toujours, mais on peut se dire que Jésus a payé pour moi. La condamnation, elle ne va pas tomber sur moi parce qu'elle est déjà tombée sur Jésus. Lui, il a accepté de prendre cette condamnation pour que moi, je ne sois plus condamné. Il a tout payé. Alors nous sommes libérés de la loi. Nous sommes libérés de la loi parce que justice a été faite une fois pour toutes. Nous sommes libérés de cette nécessité de répondre à toutes les exigences de Dieu pour être sauvés parce que Jésus l'a fait pour nous. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que pour être sauvé, je n'ai plus qu'à croire que Jésus est mort pour moi. C'est tellement simple que c'est dur à comprendre. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Ils disent, mais non, faut bien que je fasse quelque chose à un moment donné. Non, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par le fait d'accepter que Jésus a tout payé. Ok, là, pour l'instant, généralement, on n'a pas trop de problèmes à accepter cela. Plus difficile, c'est de vivre la grâce après la conversion. C'est la deuxième partie que je vais voir avec vous, la grâce et la sanctification. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se contentent de vivre la grâce pour être sauvées et qui, curieusement, ensuite retournent sous la loi, dans la logique de la loi, dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne. Ce qui est libérateur au moment de la conversion devient oppressant après la conversion. Nous sommes heureux d'être graciés, d'être sauvés sans pouvoir totalement accomplir la volonté de Dieu. Mais après la conversion, il arrive qu'on recommence à faire des efforts pour faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est très, très, très fréquent. Trop fréquent même, je dirais. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de la grâce. Il faut qu'on revienne sur la grâce. Parce que je m'aperçois que chez des chrétiens et chez des chrétiennes, ça entraîne le malaise, ça entraîne la culpabilité, ça entraîne le sentiment d'indignité. Je suis chrétien, je suis chrétienne, j'ai pris le baptême, mais je ne me sens pas digne. Je me sens à nouveau condamné parce que je vois que dans ma vie, tout ne correspond pas exactement à ce que Dieu voudrait. Comme si ce qu'on n'avait pas à faire au départ, il fallait le faire après. Il y a quelques années, au début de notre mariage avec Sandrine, on n'avait pratiquement pas un sou en poche. Mais bon, on était jeunes, insouciants et pleins d'espoir. Alors, on s'est mariés. Mais vraiment, on n'avait pas grand-chose. Et puis, un jour, dans un centre commercial, on a vu une promo. Il y avait un espace qui était délimité. Et c'était marqué, il y avait les panneaux. Tout ce qui se trouve dans cet espace, ça formait comme un carré. Eh bien, vous avez un produit acheté et un produit gratuit. Ou une remise. On dit, super, on va pouvoir acheter des gâteaux. On va pouvoir acheter des choses qu'on n'avait pas trop l'habitude d'acheter. On était vraiment contents. Donc on a pris quelques produits justement dans cet espace. Et puis au moment d'arriver à la caisse, Sandrine, à chaque fois, elle vérifie bien la liste, vous savez, là, des courses. Elle dit non, là, il y a un problème. En fait, la remise qui nous est promise, elle n'a pas été comptée. On s'est dit, mince quand même, là, c'est marqué en toutes lettres. Alors on a fait ce que vous faites certainement quand ça vous arrive. On est allé à la caisse centrale. Puis on a montré le ticket à la dame qui était là. On lui dit, regardez, on les a achetés là dans le cadre de l'espace où c'est dit qu'on peut avoir un produit gratuit. Et puis elle dit, regarde, non, ce produit-là que vous avez acheté, en fait, vous voyez, il est sur le bord du carré. Donc, il n'est pas inclus dans la promotion. Donc, en fait, ce qu'on n'avait pas payé au départ, il fallait le payer à l'arrivée. Et quelquefois, le salut, c'est pareil. C'est exactement le même processus qui s'enclenche dans la vie des chrétiens. Ce qu'on n'a pas eu à payer au départ, eh ben, on va le payer après. Mais est-ce que vraiment Dieu peut dire, « Ok, c'est bien, t'es sauvé maintenant, mais pour être béni, il va falloir que tu fasses ma volonté. » Et la bénédiction, elle va être conditionnelle au fait que tu vas faire ma volonté. Et si tu ne fais pas assez ma volonté, tu n'auras pas ma bénédiction. Tu ne seras pas béni. Ok, tu es sauvé, tu voudrais être baptisé dans le Saint-Esprit, tu voudrais être rempli de ma présence, mais pour être baptisé du Saint-Esprit, tu dois être saint. Parce que si tu n'es pas assez saint, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. D'accord, tu es sauvé, tu t'attends à ce que j'agisse dans ta vie. Mais Là, rien ne bouge dans ta situation. C'est comme si tu étais bloqué. Mais si c'est bloqué comme ça, tu sais pourquoi ? C'est parce que tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas passé assez de temps à genoux dans la prière. Est-ce que c'est logique qu'un Dieu qui fait grâce pour que nous soyons sauvés nous demande d'accomplir pleinement sa volonté après, une fois qu'on est sauvé ? C'est contradictoire, complètement contradictoire. Et c'est ça le problème. C'est que la grâce, elle ne s'arrête pas à la conversion. Elle est toujours à l'origine de notre vie spirituelle. Sinon, tu vas œuvrer par toi-même. Sinon, tu vas retomber dans la logique de faire la volonté de Dieu par tes propres efforts. Et tu vas retomber dans cette logique de la loi et du mérite. Une des plus grandes courses qu'il y a dans, qui est organisée régulièrement tous les ans, c'est la course du Paris-Dakar, qui n'est plus entre Paris et Dakar, qui se déroule maintenant en Amérique du Sud. Mais c'est une course quand même qui s'étend sur 9300 km. C'est énorme, 9300 km. Donc vous avez des dizaines de concurrents, des motos, des camions, des voitures qui sont sur la ligne de départ. Et imaginez que les organisateurs du Paris-Dakar disent à tous les concurrents « Ok, on vous donne l'essence pour que vous partiez, mais pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour trouver une station-service dans la Pampa. Tu te débrouilles pour trouver un mécanicien quelque part là dans le désert. Vous voyez ? C'est impossible. L'essence qu'ils vont avoir dans le réservoir ne va pas leur permettre d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est impossible. Il faut que ce soit l'organisateur de la course qui assure lui-même le ravitaillement avec tout le matériel qu'il faut. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que les concurrents arrivent jusqu'au bout de la course. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Dieu continue de faire grâce. Et c'est avec ce qu'il va nous communiquer, avec ce qu'il va nous donner, que nous allons pouvoir accomplir sa volonté. Alors, il n'y a pas de raison de se sentir condamné. Il n'y a pas de raison de se sentir coupable, même si nous échouons, parce que la grâce continue d'agir. Vous avez ce texte qui n'est pas très connu, mais qui est tellement important, qu'on trouve dans la lettre que Paul a adressée à Tite, au chapitre 2, versets 11 et 12, où il dit « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. » Grâce, source de salut, pas de problème. Elle nous enseigne, il s'agit encore de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. La grâce est source de salut et la grâce nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite. C'est la grâce qui est à l'origine de notre vie spirituelle. C'est la grâce qui continue d'agir pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. On peut être frappé par les exigences du Seigneur, ça c'est sûr, et c'est désespérant si nous ne considérons pas qu'il est dit que la grâce est la source du salut et que cette même source nous conduit à accomplir ses bonnes actions. Il y a une expression vraiment très belle qu'on trouve au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 16 et 17, lorsque là, l'évangéliste dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Grâce pour grâce. La grâce coule toujours. La grâce ne s'arrête pas. La plénitude est en Dieu, elle est manifestée en Jésus-Christ, et cette plénitude fait que la grâce coule toujours. Grâce pour grâce. Grâce après grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce n'arrête jamais de couler. Elle coule toujours dans nos vies. Si notre cœur est ouvert, si nous sommes réceptifs, si nous avons ce désir de relation avec Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous allons être équipés pour accomplir sa volonté. Être gracié ne signifie pas que je ne dois plus avoir le souci de faire la volonté de Dieu. Bien entendu, je suis appelé à obéir à Dieu. Et là, je ne m'adresse pas, enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a des gens qui galvaudent la grâce. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais volontairement, ils ne vont pas la faire. Ça les ennuie, ils se disent, oh, de toute façon, j'ai déjà fait, j'ai l'habitude, je continue, Dieu pardonne. Quand on fait comme ça, je suis moins sûr du résultat. Je suis moins sûr du résultat. Mais ce qui est absolument nécessaire de comprendre, c'est que je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si ce n'est pas lui qui me permet de l'accomplir en moi. Je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si Christ ne vit pas en moi. C'est ce que dit Paul, ces paroles qu'on trouve dans Galates, au chapitre 2, au verset 20 et 21. « J'ai été crucifié avec Christ. Je me suis là vraiment identifié à ce que Jésus a accompli pour moi. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi, si c'est au moyen de mes propres efforts que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Paul est en train de dire aux Galates, mais ne retournez pas dans les efforts, dans le mérite, dans le faire. Non, avancez par la foi. Croyez là que Christ a tout accompli à la croix et recevez cette vie qu'il donne. Christ est vivant et par son esprit, il habite en vous. Et ce sont les capacités qu'il nous communique qui vont nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Je n'ai pas compté sur mes forces pour être sauvé. Alors, je ne vais pas compter sur mes forces maintenant pour obéir à Dieu. Sinon, je rejette la grâce de Dieu. Jésus est mort en vain. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul dit dans la même lettre, un peu plus loin, chapitre 3, verset 18, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Si Christ agit en moi, s'il a l'Esprit agit en moi, si j'ai ce désir de communion et de relation avec Christ au travers du Saint-Esprit, à ce moment-là, ce n'est pas simplement une règle que je vais avoir à appliquer, ce n'est pas simplement ce qui est écrit là dans les pages de la Bible qu'il faut absolument que je mette en pratique, mais c'est l'Esprit qui va me conduire à la mettre en pratique. C'est l'Esprit qui va me permettre d'obéir. Vouloir appliquer la volonté de Christ sans Christ en nous revient à marcher selon la loi, à faire dépendre notre obéissance et notre sanctification de notre propre capacité. Si Christ n'accomplit pas son œuvre en nous, notre réflexe sera toujours de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle et de faire les choses avec notre propre force, sans compter sur l'action du Saint-Esprit en nous. En réalité, notre capacité à obéir à Dieu dépend entièrement, entièrement de notre relation avec Christ. Il faut cultiver cette relation avec Christ. Il faut qu'on développe cette culture de la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans nos moments de prière personnelle, ce dont nous avons besoin avant tout. Avant même là, de lire la Bible et de voir comment je peux l'appliquer, c'est d'abord cette relation. D'abord là, ce que Christ me communique. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Si c'est vrai, c'est énorme. Mais je trouve que c'est une bonne illustration de ça. Il y avait des étudiants qui devaient passer leur examen final en philosophie. Alors, l'examen final était très très compliqué, très très difficile. Tu la connais ? Connais tout, hein. L'examen était... C'est une histoire vraie, tu sais, c'est une histoire vraie. C'est vraiment énorme. L'examen est tellement difficile que le professeur avait indiqué aux étudiants qu'il les autorisait à apporter dans la salle d'examen toutes les informations qui pouvaient être contenues sur le recto d'une feuille A4. Il a dit, je comprends, l'examen est pratiquement impossible à avoir. Donc, pour pouvoir, je ne vous demande pas de venir avec vos livres grands ouverts quand même, mais je vous donne la possibilité de marquer toutes les informations que vous pouvez sur un recto, sur une feuille comme ça. Alors, le jour de l'examen, évidemment, les étudiants, ils ont profité à fond de cette possibilité qui leur était donnée et ils sont venus avec leurs feuilles remplies d'informations, écrites en minuscules, il fallait presque lire avec une loupe, parce qu'ils voulaient exploiter au maximum la possibilité qui leur était donnée. Donc, sur les feuilles, là, elles étaient noircies, il y avait plein de termes techniques, il y avait des noms d'auteurs, il y avait des citations, hein, enfin, tout ce qui leur permettait de pouvoir avoir leur examen. Et parmi les étudiants, il y en a un qui s'est présenté, lui aussi, il est venu avec sa feuille, mais la particularité de la feuille de cet étudiant, c'est qu'elle n'était pas comme ça, elle était comme ça. La feuille était blanche. Et la feuille, sa feuille blanche, il l'a posée par terre. Et puis, il n'était pas venu tout seul. Il était venu avec un ancien étudiant de philosophie qui, lui, avait été calé, qui, lui, était un expert, qui, lui, avait toute la connaissance. Et il lui a demandé, pendant le temps de l'examen, de se mettre sur la feuille. Et c'est ce qui fait que pendant tout le temps de l'examen, à chaque fois qu'il calait sur quelque chose, il se tournait vers son ami, qui avait toute la connaissance, qui lui était déjà diplômé, et il lui donnait les réponses. Et il a eu une note formidable. Il y en a plein qui ont été recalés. Mais lui, il a eu l'examen. Il a pu bénéficier de la présence de son ami et de tout le savoir qu'avait son ami. Ses capacités ne venaient pas de lui, elles venaient de son ami. C'est ça que nous sommes appelés à vivre, avoir cette relation vivante avec Christ, pas avec une parole simplement, avec une loi, un règlement qui se trouve sur une page, même si c'est sur la page de la Bible. Toutes ces choses sont bonnes, mais je suis incapable de pouvoir l'appliquer par moi-même. Par contre, si j'ai cette relation, si j'ai vraiment l'Esprit de Dieu qui agit en moi, si je suis connecté avec Christ, avec ce Christ vivant, à ce moment-là, j'ai la possibilité de pouvoir appliquer sa volonté. Marcher selon la loi inspire forcément le découragement. Si nous marchons selon la loi, si nous voulons faire les choses par nos propres efforts, nous serons inévitablement confrontés à nos incapacités. Et là, nous considérerons la volonté de Dieu simplement comme des règles à appliquer. Tu connais la volonté de Dieu, tu voudrais bien la faire, mais en fait, tu fais continuellement face à ton insuffisance. Il y a vraiment ce désir là en toi, mais tu vois que tu n'y arrives pas, que périodiquement, il y a des moments de faiblesse. Si tu marches selon la loi, au bout d'un moment, tu en auras marre. Tu vas être découragé. Tu te dis, mais je fais tout ce que je peux. Mais au final, je n'y arrive pas, ça ne marche pas. Marcher selon la grâce, par contre, ça inspire la foi et l'espérance. Parce que je sais que l'état dans lequel je me trouve à des moments donnés n'est jamais définitif. Oui, je suis dans un moment de faiblesse. Oui, là je n'ai pas agi, je n'ai pas dit ce qu'il fallait, je ne me suis pas comporté comme il fallait. Oui, là, je suis carrément en décalage avec ce que Dieu réclame de moi. J'ai des défauts, je commets des erreurs. Mais parce que Dieu me fait grâce, je sais que cet état-là n'est pas définitif et que je vais progresser. Parce que j'ai cette relation vivante avec Christ, eh bien, je vais pouvoir continuer. Marcher selon la loi inspire l'hypocrisie. Quand on s'aperçoit que l'on voudrait et que l'on ne peut pas, que notre vie ne porte pas le fruit que l'on souhaiterait, que notre service n'a pas le résultat que nous souhaiterions, on peut être tenté de compenser en faisant penser autour de nous qu'on y arrive quand même. Le défi, là, c'est de ne pas laisser penser aux gens de l'Église, à ceux qui nous entourent, qu'on déchoit, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'obéit pas à Dieu. Alors, on joue un rôle. L'hypocrisie, c'est ça, c'est jouer un rôle, c'est être un comédien. On joue le rôle du bon chrétien. On joue le rôle du chrétien qui prie, du chrétien qui adore, du chrétien qui lit la Bible. On joue le rôle du chrétien, de la personne spirituelle. Marcher selon la loi inspire l'hypocrisie. Marcher selon la grâce inspire l'humilité et la sincérité. Si je marche selon la grâce, ce n'est pas un problème pour moi d'admettre mon insuffisance. Parce que je sais que l'œuvre qui s'accomplit en moi se fait par Christ. Parce que je sais que de toute manière, je ne pourrai pas, je suis incapable. Mais c'est l'œuvre que Christ accomplit en moi qui va me permettre de réaliser les choses. On réalise qu'on n'a aucun mérite, que mon obéissance ne dépend pas de moi, simplement de ma volonté et de mon désir d'obéir. Mais la capacité, elle va m'être donnée par Christ au travers de la relation que j'ai avec lui. Marcher selon la loi inspire l'orgueil et le jugement des autres. Quand on n'est pas au bénéfice de la grâce, on n'apprend pas à faire grâce. Vous savez, il y a une expression qui dit être raide comme la justice. Raide comme la justice. Quelqu'un qui ne déroge jamais à ses principes, qui est implacable dans ses jugements, qui est toujours sûr de lui. Les gens qui lèvent l'index comme ça pour faire la leçon. Comme ça, pour pointer ceux qui n'arrivent pas à faire les choses comme il faudrait. C'est sûr que si la piété est le résultat de mes efforts personnels, de ma discipline personnelle, je peux m'autoriser à me placer au-dessus des autres et considérer que les autres, ils ne sont pas aussi spirituels. Ils ne font pas les choses aussi bien que moi. On juge les gens sur leur histoire personnelle, sur leurs erreurs, sur leurs failles. Ce n'est pas la grâce. Marcher selon la grâce inspire la compassion. Marcher selon la grâce inspire la compréhension. Marcher selon la grâce inspire l'écoute, le pardon. Marcher selon la grâce, ça donne envie de prier pour ceux qui sont faibles. Ça donne envie de les accompagner. Ça donne envie de les exhorter. Parce qu'on sait qu'on est logé à la même enseigne et que les faiblesses que la personne elle accomplit, à un moment donné, ça pourrait très bien être moi. très bien être moi. Alors plutôt que de me placer au-dessus et de dire qu'ils font mal, eh ben que je prie pour eux. Et que vraiment, là, je puisse avoir là, ce cœur pour les accompagner, les prier pour eux, les exhorter. Marcher selon la loi conduit à vouloir tout expliquer, à trouver une raison aux épreuves qui nous frappent, à tout spiritualiser. Oh là là, si ça, ça m'arrive, c'est parce que j'ai pas assez bien fait. Si je traverse telle circonstance, ça, c'est parce que j'ai pas assez prié. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû prier un quart d'heure de plus lundi dernier. C'est normal. Si ça m'arrive comme ça, c'est parce que je suis pas assez consacré. Là, j'ai trop regardé la télé, j'ai trop écouté la radio. J'aurais dû rester à genoux plus longtemps dans ma chambre, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu. Tout vouloir expliquer. Parce que forcément, il y a toujours un lien de cause à effet à ce moment-là. Mais marcher selon la grâce conduit à s'abandonner entre les mains de Dieu, qui a promis sa présence dans les bons comme dans les mauvais jours. Il n'y a pas de lien automatique entre nos problèmes, entre ce qui peut nous arriver et notre manque d'obéissance. Les problèmes, ils viennent de toute manière. Ils viennent. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir des problèmes et rencontrer des difficultés. Non, ils sont là. Alors bon, il ne faut pas les chercher, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas forcément de lien automatique. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que Dieu nous fait la promesse de sa présence continuelle. Il nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On peut compter sur lui à n'importe quel moment. Marcher selon la loi inspire la peur de tomber. Si j'échoue, si je faillis à nouveau, Dieu ne va plus vouloir de moi. Dieu va me rejeter. Je ne vais plus être béni parce que je ne fais pas sa volonté. Alors forcément, le contrat, il n'est pas rempli. Il n'y a pas le donnant-donnant. Marcher selon la grâce te rend confiant parce que Christ en toi te renouvelle et te fortifie constamment. Peut-être qu'à un moment donné, mon trait de caractère va rejaillir. J'ai un problème avec la colère. Je fais tout ce que je peux là pour justement ne pas me mettre en colère. Puis, à un moment, là, les enfants, ils ont pris. Mon épouse, l'époux, il a pris. Le collègue, il a pris. Et mon trait de caractère, il peut rejaillir comme ça. Peut-être que mes mauvaises habitudes, là, celles qui me taraudent dans ma conscience, elles sont là, elles sont toujours un peu là. Peut-être même que c'est mon addiction qui va me rattraper. Mais ça ne me condamne pas. Ça ne me condamne pas aux yeux de Dieu. Souvenez-vous ce que dit l'évangile de Jean. La plénitude de Dieu est ses grâces. Tu peux remettre le verset. Grâce pour grâce. Alors oui, je me suis mis en colère, mais Dieu me fait grâce. Et par sa force, j'arrive. Je progresse. Là, j'ai connu une défaite, mais je m'aperçois que je me mets de moins en moins en colère parce que Dieu agit en moi, l'Esprit de Dieu agit en moi, Christ agit en moi. Et puis, boum, je me remets en colère. Mais je peux bénéficier de la plénitude et encore grâce pour grâce. Alors, il y a une nouvelle défaite, mais je me relève et je vais pouvoir aller plus loin jusqu'au moment où je serai vraiment libéré totalement de la colère. En tout cas, je sais que je progresserai continuellement parce que je ne suis plus condamné aux yeux de Dieu. Dieu ne me condamne plus parce que je marche par la grâce et que de ce fait, je ne suis plus condamné parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit. C'est ce que dit, c'est ce que proclame la parole. Si tu tombes, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer d'avancer. Et je vais te dire, même si tu es tombé aujourd'hui, tu vas y arriver. Parce que la grâce va agir. Parce que par la foi, tu vas pleinement saisir que plus rien ne te condamne, que justice a été faite et qu'il n'y a rien qui va tomber sur ta tête par la grâce de Dieu. Alors on va prier ensemble, on va se placer devant le Seigneur. Peut-être tu peux nous accompagner à nouveau par le chant, le dernier chant qu'on a pris. Simplement pour que nous puissions à nouveau en repasser, recevoir ce message de la grâce. Pour certains d'entre nous, je suis certain qu'il faut passer à autre chose, dépasser la pure compréhension intellectuelle pour vivre et appliquer cette grâce pleinement dans notre cœur, dans notre vie, dans notre église, dans notre famille, sur notre lieu de travail. Et là, il y a vraiment besoin de l'action du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment qu'on s'ouvre à ça. Je voudrais qu'on puisse se recueillir et que ce nouveau message sur la grâce, peut-être le 2000e message sur la grâce que vous entendez, mais qui puisse avoir un écho dans votre cœur. Et je suis sûr que la grâce sera encore prêchée dans cette église et qu'il y aura encore un écho qui sera trouvé dans les cœurs. Mais là, il y a un moment à saisir. Un moment à saisir pour dépasser toutes les conceptions religieuses. Un moment à saisir pour comprendre que ma vie chrétienne, elle ne dépend pas de moi. La seule chose que j'ai à mettre en œuvre, c'est mon désir, ma volonté d'obéir à Dieu. Mais je n'y arriverai pas par moi-même. J'aurais donné la possibilité à ceux qui ont compris vraiment la grâce pour le salut de pouvoir recevoir cette grâce dans leur cœur et dans leur vie. De dire au Seigneur, oui, j'ai compris maintenant. J'ai compris que je ne peux rien faire pour mériter le salut. Je n'ai rien à faire pour pouvoir avoir la vie éternelle, que c'est impossible. Mais là, maintenant, ce matin, je te reçois. Seigneur, j'ai compris que tu m'as fait grâce et que si je peux aller au paradis, c'est simplement parce qu'à un moment donné, toi, tu l'as décidé. Alors je reconnais que Jésus est mort pour moi. Je reconnais qu'il est mon sauveur ce matin. Je reconnais que je n'ai plus rien à accomplir, que la justice ne me tombera pas dessus parce qu'elle est tombée sur Jésus. Il s'est substitué à moi. Seigneur, parle au cœur, Seigneur, agis par ton Saint-Esprit, afin que ce message devienne réalité et vérité. Merci Seigneur de ce que tu accomplis en ce moment. Merci Seigneur Dieu de toucher les cœurs et de nous faire réaliser encore, Seigneur Dieu, ce que tu as accepté de vivre pour chacun d'entre nous. On l'a commémoré à l'instant en partageant le pain et le vin. Là qui montre ce que tu as subi, ton sang qui a coulé, ton corps qui a été frappé. Seigneur, que vraiment là, les cœurs qui n'ont pas encore reçu ton salut puissent le recevoir ce matin. Qu'ils puissent être au bénéfice de ce message de la grâce. Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis. Et tu vas me prendre pour faire de moi une autre personne. Et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont découragés, tous ceux là qui sont animés par cette bonne volonté, mais qui échouent périodiquement. Ne comptez plus sur vos propres forces maintenant. Regardez à Christ. Que vraiment Christ puisse prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Que vraiment notre aspiration première et principale, ce soit cette relation avec Christ. Parce qu'au travers de cette relation, le Saint-Esprit va vous communiquer le potentiel, la capacité dont vous avez besoin pour obéir et mettre en œuvre la volonté de Dieu. Non pas par mes propres forces, Seigneur, mais par ton Esprit. Seigneur, viens consoler, Seigneur, ceux qui sont dans l'échec. Viens consoler ceux qui sont dans la faillite. Viens leur montrer, Seigneur Dieu, que la condamnation ne pèse pas sur leur tête, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu l'as prise à la croix. Seigneur Dieu, viens, Seigneur Dieu, les encourager. Viens agir par ton Esprit en cet instant. Viens les renouveler dans le Saint-Esprit, afin, Seigneur Dieu, que même s'ils ont failli, même s'ils sont tombés, ils se relèvent. Et même s'ils tomberont encore, Seigneur, que parce que tu fais grâce à chaque fois, Seigneur, tu agis en nous, tu nous perfectionnes, tu nous sanctifies, c'est une œuvre que toi tu accomplis en nous. Nous n'avons aucun moyen de le faire et tu l'accomplis en cet instant, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir ta grâce pour être les proclamateurs de ta grâce. Nous voulons recevoir ta grâce pour faire grâce autour de nous, pour nous exhorter les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres. Nous voulons recevoir ta grâce, Seigneur Dieu, pour rayonner de cette grâce autour de nous. Tu vois ceux qui sont prisonniers dans la religion, prisonniers dans leurs fausses pensées, qui sont dans le désespoir. Mais Seigneur, parce que nous sommes porteurs de cette grâce, Seigneur, tu touches, tu transformes, tu donnes l'espérance, tu donnes le salut, Seigneur. Vois ton Église devant toi, Seigneur, que nous soyons le peuple de la grâce. Non pas par nos efforts, non pas, Seigneur, par ce que nous pouvons faire, mais par toi et par ton esprit, Seigneur. S'il te plaît, agis en nous, Seigneur. Vois notre faiblesse, vois nos erreurs, vois nos fautes, Seigneur Jésus. Mais non pas pour nous condamner, mais pour nous relever et pour agir en nous, Seigneur. Seigneur, nous élevons ta main. Nous élevons, Seigneur Dieu, nos mains vers toi. Et nous te bénissons et nous te glorifions. Merci d'avoir décidé souverainement de notre salut. Merci de décider souverainement de nous communiquer aussi, Seigneur Dieu, les capacités dont nous avons besoin pour être obéissants et pour être, Seigneur Jésus, là, pour glorifier ton nom, pour être cette lumière, ce sel, Seigneur.